VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 5 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Michel Joseph.
Pour commencer les titres.
Au Soudan, nouvelle protestation ce mardi contre l'armée, malgré le déploiement massif des forces de sécurité.
Au Kenya, 8 arrestations après une attaque meurtrière dans l'est du pays. En Afrique du Sud, remise au président Cyril Ramaphosa d'un rapport attendu sur la corruption de l'ère Jacob Zuma, son prédécesseur.
Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a entamé ce mardi une tournée africaine en Érythrée.
Covid-19, l'Europe et les États-Unis frappés par le raz-de-marée Omicron. Et au Kazakhstan, dernière minute, plus de 200 arrestations et des dizaines de blessés après des manifestations. Ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouédraogo sur la CAN qui commence le 9 janvier au Cameroun. Pour l'instant, le journal.
Au Soudan, les forces de sécurité ont tiré ce mardi des gaz lacrymogènes sur des manifestants descendus dans la rue à Khartoum et à Omdurman, ainsi que dans d'autres villes. Malgré le déploiement massif de forces de sécurité et une répression meurtrière qui a fait au moins 57 morts et des centaines de blessés depuis le putsch d'octobre du général Abdel Fattah al-Burhan, selon un syndicat indépendant de médecins.
Les manifestants protestaient contre ce pouvoir militaire 2 jours après la démission du premier ministre Abdallah Hamdok. Pour leur part, les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et la Norvège ont exhorté l'armée soudanaise à ne pas nommer unilatéralement un nouveau chef de gouvernement, soulignant dans une déclaration commune qu'ils ne soutiendront pas un premier ministre ou un gouvernement nommé sans l'implication d'un grand panel d'acteurs civils.
Au Kenya, la police a annoncé hier l'arrestation de 8 personnes au lendemain d'une attaque où 6 personnes ont été tuées et des maisons incendiées dans le comté de Lamu, proche de la Somalie. Le point avec Eric Manirakiza.
La police a publié les noms de 8 personnes arrêtées. L'enquête avance bien d'après Bruno Chioso, porte-parole de la police qui avait annoncé auparavant l'arrestation de 4 personnes. Il a précisé que pour le moment l'attaque est liée à des conflits liés à la terre et que de tels incidents ne sont pas rares dans cette région rurale à environ 420 km de la capitale Nairobi. Entre dimanche soir et tôt lundi, des assaillants ont décapité une personne, pillé sa maison et tué par balle un autre homme dont le corps a été retrouvé au bord d'une route, selon la police. Puis les corps de 4 autres hommes ont été retrouvés brûlés, les mains attachées toujours selon la police. Depuis son intervention militaire en Somalie en 2011, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux contre le centre commercial Westgate à Nairobi qui avait fait 67 morts en 2013, et contre l'université de Garissa qui avait fait 148 morts en 2015.
Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, est arrivé hier en Érythrée pour la première étape d'une tournée africaine qu'il mènera aussi au Kenya et aux Comores. Sa visite fait suite à un voyage en Afrique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en novembre et qui, dit-on, visait en partie à contrer l'influence croissante de la Chine sur le continent. Pékin est le premier partenaire commercial de l'Afrique avec des échanges directs de plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon les chiffres officiels chinois.
Des milliers d'Éthiopiens originaires de la région du Tigré ont été illégalement emprisonnés et violentés. À leur retour en Éthiopie, après avoir été expulsés d'Arabie Saoudite, affirme Human Rights Watch dans un rapport publié mercredi. Ces Tigréens faisaient partie des dizaines de milliers d'immigrants éthiopiens à la recherche d'un emploi, expulsés depuis un an par l'Arabie Saoudite.
En Afrique du Sud, la première partie d'un rapport très attendu sur la corruption sous la présidence de Jacob Zuma a été remise mardi au président Cyril Ramaphosa lors d'une cérémonie à Pretoria. Le rapport contient de nombreux témoignages recueillis sur 4 ans par une commission ad hoc Abdelrahman Dia.
Pour le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, c'est un moment décisif dans les efforts de son gouvernement pour mettre définitivement un terme à l'ère de la corruption d'État et restaurer l'intégrité, la crédibilité et la capacité des institutions. La commission a été mise en place par l'ex-président Jacob Zuma lui-même pour afficher sa bonne volonté en février 2018. Ce premier volet comprend des chapitres sur la compagnie aérienne sud-africaine South African Airways et les services fiscaux du pays, selon Raymond Zondo, le juge qui préside la commission. Les deux prochains volets seront publiés fin janvier puis fin février. Le président Ramaphosa devra décider et annoncer devant le Parlement d'ici fin juin quelles seront les suites à ce rapport. Jacob Zuma a toujours de nombreux partisans au sein de l'ANC. M. Zuma, 79 ans aujourd'hui, a tout fait pour ne pas témoigner devant cette commission, ce qui lui a valu en juin d'être condamné à 15 mois de prison pour entrave à la justice. Son incarcération avait déclenché des émeutes qui ont fait 350 morts. Il est en libération conditionnelle depuis septembre pour raisons médicales.
La police au Kazakhstan a fait état mercredi de plus de 200 arrestations et de dizaines de ses agents blessés après les manifestations contre la hausse des prix du gaz qui ont agité plusieurs villes de ce pays d'Asie centrale. Ces protestations ont mené au limogeage du gouvernement par le président Kassim Jomart Tokayev. L'état d'urgence a également été décrété jusqu'au 19 janvier dans plusieurs régions, dont Almaty, capitale économique, où un couvre-feu sera en vigueur de 23h à 7h locale.
Près de 890 000 cas en 24 heures aux États-Unis, 270 000 en France et plus de 200 000 au Royaume-Uni, les contaminations au Covid-19 se sont encore multipliées mardi à travers le monde, menaçant certains secteurs de dysfonctionnement importants. Rosine Mounezero.
Confrontés à une cinquième vague, les États-Unis ont enregistré un record mondial de plus d'un million de cas sur 24 heures, selon les données de l'université Johns Hopkins. En France, le taux de contaminés dépasse 15%, proche de ses records de l'automne 2020. La vague actuelle, relancée fin 2021 par le nouveau variant Omicron, beaucoup plus contagieux même si sa sévérité semble limitée, entraîne une hausse des absences pour maladie. Un phénomène qui provoque des dysfonctionnements dans plusieurs secteurs, notamment celui de la santé. Les gouvernements ont imposé de nouvelles restrictions, incitant au télétravail, tout en mettant la pression sur les non-vaccinés alors que le variant Omicron parfois ne semble pas faire la différence entre vaccinés et non-vaccinés. Il est extrêmement contagieux mais pour l'heure ne s'accompagne pas d'une hausse importante des décès. Depuis la découverte de Covid-19 il y a 2 ans, la pandémie a tué plus de 5,4 millions de personnes dans le monde.
De nombreux automobilistes ont été bloqués hier sur une route du nord-est des États-Unis. Certains ont passé près de 24 heures dans leur véhicule. La tempête hivernale a recouvert la région de neige et provoqué de nombreuses chutes d'arbres. Le point avec Ginny Kapumuvila.
Un tronçon de 86 km de l'autoroute I-95 menant vers Washington, la capitale américaine, a été fermé. Les autorités ont déployé tous les efforts pour rendre praticables des voies entravées par les troncs d'arbres, des camions immobilisés, des monceaux de neige et les plaques de verglas. Tim Kaine, sénateur démocrate de Virginie, qui devait se rendre au Capitole, était parmi les conducteurs coincés sur cet axe. Il a mis 19 heures au lieu des 2 heures habituelles pour rejoindre Washington. La tempête a déposé près de 20 cm de neige, paralysant la capitale américaine et bloquant pendant une demi-heure le président Joe Biden dans son avion Air Force One. Près de 255 000 foyers ont été privés d'électricité en Virginie et dans l'État voisin du Maryland. Des efforts se poursuivent pour dégager les routes et offrir des abris chauffés à ceux qui ont été coincés dans le froid glacial, selon Ralph Northam, gouverneur de la Virginie.
La Corée du Nord a lancé un projectile non identifié dans la mer, ont annoncé ce mercredi la Corée du Sud et le Japon, ce qui représente le premier test de ce type de la part de Pyongyang en cette nouvelle année.
Et maintenant, comme promis, Yakuba Ouedraogo et notre page sport.
Bonjour à tous. L'attaquant Ismaïla Sarr a quitté Londres pour rejoindre l'équipe du Sénégal. En partance pour la Coupe d'Afrique des Nations, après un bras de fer avec son club anglais de Watford, a annoncé la Fédération nationale. Les Sénégalais, parmi les favoris de la compétition, ont décollé après avoir été reçus par le président Macky Sall. L'attaquant de 23 ans était au cœur d'un litige entre la Fédération sénégalaise de football et Watford, 17e de Premier League. Dimanche, la Fédération sénégalaise a accusé Watford de bloquer le joueur et de chercher par tous les moyens à l'empêcher de jouer avec la sélection. Suite de notre série sur la présentation des différentes équipes prenant part à la CAN Cameroun 2021, qui débute ce dimanche 9 janvier, nous marquons un arrêt sur le groupe E, basé à Douala. Cette poule est composée de deux favorites, entre autres, la Côte d'Ivoire et l'Algérie, championne en titre. Bagassi Koura.
Elle est championne d'Afrique en titre et remet son trophée en jeu avec pour ambition de le conserver. L'Algérie assume parfaitement son statut d'une des équipes prétendantes au sacre final au soir du 6 février à Yaoundé. Après avoir longtemps poursuivi ce trophée continental, après leur sacre en 1990, les Fenech ont réussi à accrocher une deuxième médaille à leur maillot en 2019 en Égypte. Depuis, le capitaine et emblématique ailier Riyad Mahrez et ses coéquipiers enchaînent les bonnes performances. Ils restent invaincus sur 33 matchs, un record sur le continent. Une invincibilité qu'ils ont récemment fait citer en remportant la Coupe Arabe à Doha au Qatar le mois dernier. Sans tous les cadres de leur équipe, les Fenech ont franchi haut les mains la phase éliminatoire de cette CAN. 4 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont fini avec la meilleure attaque des éliminatoires, 19 buts inscrits. Sur le papier, sortir de ce groupe E ne saurait être un challenge pour les Verts qui ne devraient en principe être sérieusement inquiété que par la Côte d'Ivoire, l'autre poids lourd de cette poule. Comme les Fenech, les éléphants comptent 2 sacres continentaux enlevés en 92 et en 2015. Du haut de ses 25 phases finales de CAN, la Côte d'Ivoire a toujours impressionné par la qualité de son effectif et cette année ne fait pas exception. Du défenseur de Manchester United, Eric Bailly, au colosse attaquant de l'Ajax Amsterdam, Sébastien Haller. En passant par le latéral gauche Serge Aurier, les Ivoiriens affichent un effectif à faire rêver leurs fans et faire pâlir leurs adversaires. Mais les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Les Ivoiriens ont tout de même eu peu de peine à se qualifier pour cette CAN. En éliminatoire, ils ont fini premier de leur groupe grâce à 4 victoires, un match nul et une défaite. Ils savent, la principale difficulté pour eux dans cette poule reste l'Algérie. La Côte d'Ivoire voudra donc maximiser face à la Guinée équatoriale et la Sierra Leone.
Merci Bagassi. En plus de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie, le groupe E comporte 2 outsiders, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone que nous présente Nanit Talani.
Les Lone Stars joueront leur 3e phase finale de CAN cette année après leur participation lointaine en 1994 et 1996. Le sélectionneur britanno-sierra-léonais John Kester a donc à sa disposition des garçons qui joueront pour la première fois une phase finale de CAN. En phase éliminatoire, les sierra-léonais ont été les derniers à se qualifier pour cette CAN, arrachant difficilement leur ticket dans une rencontre délocalisée à Conakry en Guinée suite à un imbroglio lié à des tests COVID-19 face au Bénin. Pour se sortir d'affaire, les Sierra Leonais n'ont enregistré qu'une seule victoire, celle d'ailleurs décrochée devant les Béninois. Pour le reste, ils comptent 4 matchs nuls et une défaite. Un bilan comptable peu reluisant et qui, a priori, complique la mission, surtout quand on a dans son groupe des ténors comme la Côte d'Ivoire et l'Algérie. La Sierra Leone pourrait abattre ses cartes sur une éventuelle place de meilleur troisième et pour cela, il faudra se concentrer sur un autre maillon moins fort du groupe, la Guinée équatoriale. Le Zalang national a déjà pris part à 2 CAN en 2012 dans une co-organisation avec le Gabon et en 2015 où elle a abrité le tournoi continental. Cette fois-ci, c'est la première fois que la Guinée équatoriale a pu arracher son ticket de qualification sur le terrain, s'adjugeant la 2e place de son groupe lors des éliminatoires. Pour cela, elle a enregistré 3 victoires et défaites. Pour bousculer la hiérarchie dans ce groupe E, les Équato-Guinéens misent sur un mélange de joueurs locaux et de rares internationaux. Les poulains du coach Juan Micha Obiang ont toujours à l'esprit cet exploit réussi en 2015 lorsqu'ils ont atteint les demi-finales à domicile ou en 2012 quand ils ont été sortis en quart de finale.
Merci Nanit. Le groupe E entre en compétition le 11 janvier. C'est ici que se referme cette page spéciale du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les autorités de transition annoncent ils annoncent le recrutement de 5000 jeunes diplômés en instance d'intégration à la fonction publique. L'opinion publique est sceptique quant à la tenue de cette promesse, nous dit de N'Djamena notre correspondant André Kotmadjingar.
Pour faire face à la question de l'emploi des jeunes et la lutte contre le chômage, la fonction publique ouvrira ses portes pour le recrutement de 5000 jeunes en 2022.
Le général d'armée 5 étoiles Mahamat Idriss Déby, chef de la junte militaire, s'adressant aux jeunes diplômés qui manifestent depuis des années pour revendiquer leur intégration à la fonction publique. Une promesse diversement appréciée par les membres du collectif des diplômés chômeurs.
Avant la promesse du président du comité de transition, le feu maréchal en a promis 20 000 à l'an 2020. Et il en a intégré 7 000 et il restait 13 000. On était tellement surpris du fait que le fils promet 5 000. Nous, on pensait qu'il allait s'inscrire dans la logique de la promesse de son père, en épuisant d'abord les 13 000 restants.
Adissou Dibam, l'un des coordonnateurs de la plateforme des diplômés en instance d'intégration à la fonction publique, prend acte.
Nous avons fait la prison, nous avons été humiliés, nous avons été torturés parce que nous revendiquons l'emploi. Nous prenons acte de cette promesse parce que il faut d'abord qu'il y ait la concrétisation. Qu'est-ce qui nous rassure que ce n'est pas une promesse populiste mensongère?
Nanga Thierry, coordinateur des professionnels de l'éducation, se bat depuis 13 ans pour son intégration à la fonction publique.
Moi, je prends pas acte de cette déclaration du coup. Vous prenez seulement les lauréats professionnels de l'éducation. Nous sommes restés 20 000 et quelques. Les instituteurs adjoints, ils sont au nombre de 14 000. Ceux qui ont, n'est-ce pas, nouveau licence DIPES 1, ils sont au nombre de 6 000. Et les lauréats de grade CAPES au nombre de 155, sans compter les universitaires et ceux qui viennent de l'étranger. Donc au total, on n'a pas moins de 85 000 dossiers en instance d'intégration. Et si aujourd'hui on parle de 5 000, ça c'est des gouttes d'eau dans la mer.
Pour Emmanuel Nelzika, porte-parole de la plateforme des lauréats professionnels de l'éducation, bien que cette promesse n'est pas à la hauteur de leur attente, il y aura de la discrimination comme d'habitude.
C'est un nouveau gouvernement où chacun a au moins 2-3 parents à le faire intégrer avant de quitter. Et nous qui sommes dans la rue pendant des années, nous n'avons pas des parents bien placés pour défendre nos situations. Et vous verrez que c'est toujours les leurs là qui seront intégrés à notre détriment.
Pour Nanga Thierry, coordinateur des professionnels de l'éducation, la lutte ne fait que commencer.
Nous trouvons en cette déclaration une arme efficace pour continuer notre lutte parce que la parole d'un chef d'État est exécutoire. Parce qu'il a dit, j'ordonne le ministre en charge de la fonction publique de recruter dès à présent. Et donc, nous, on attend la première semaine du mois de janvier, deuxième semaine, troisième semaine, s'il n'y a rien, nous descendons dans la rue.
2022, selon le président du Conseil militaire de transition, sera aussi une année de sport au Tchad. Tous les championnats dans les différentes disciplines seront relancés pour offrir un cadre d'épanouissement et d'affermissement à la jeunesse. André Kotmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La Côte d'Ivoire compte près de 1 500 000 enfants hors du système formel d'éducation, dont 330 000 sont dans des structures islamiques, soit 22%. Le gouvernement ivoirien essaie d'intégrer ces écoles confessionnelles dans le système scolaire. Notre correspondante Aïcha Diarra nous en dit plus.
Nous, on n'a pas eu la chance d'aller, de faire beaucoup de français, beaucoup d'arabes. Mais nous, on a fait arabe seulement. Mais alhamdoulilah, allez là, il y a français. Je travaille que je fais actuellement. Si j'avais eu la chance de faire les deux ensemble, ça allait très, très m'arranger. Parce que le travail que j'ai fait, ça ne peut pas partir sans écrit, sans lire.
Pour pallier à cette inégalité de chance, l'État s'est engagé à offrir à tous les enfants de Côte d'Ivoire une éducation de qualité, équitable et inclusive, en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi à travers la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques d'éducation dans le système éducatif formel. Marie Toukoné est la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation.
La Côte d'Ivoire a réussi à relever le pari de la mobilisation autour d'une cause d'envergure nationale. Il nous reste à créer les conditions de la mise en œuvre diligente de l'intégration jusqu'en 2025.
L'école islamique Al-Ittihadia, dont l'existence remonte à plus de 30 ans, fait partie des premiers établissements à intégrer le système éducatif national depuis 2011. Kanté Abdul Karim en est le directeur d'études.
De 2011 à aujourd'hui, il faut dire que l'effectif a considérablement augmenté. Les parents s'intéressent beaucoup aux écoles confessionnelles islamiques qu'aux écoles madrasa aujourd'hui, puisque l'enfant bénéficie de 10 enseignements. Non seulement il apprend la religion, l'arabe, mais à côté de cela, il apprend aussi le français. Et ensuite, il participe au concours de l'État. Bon, nous avons 3 jours pour le français et 2 jours pour l'arabe.
Selon le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, Marc Vincent, depuis septembre 2011, plus de 100 000 enfants ont commencé une année scolaire d'un nouveau genre qui allie le programme officiel et l'éducation religieuse.
UNICEF ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les bases sont jetées et il nous faut maintenir l'engagement tout en accélérant la cadence pour l'intégration des enfants de près de 3 000 structures islamiques déjà identifiées.
Parmi ces structures répertoriées, l'établissement islamique Ousmane Boun Afan au quartier Olienou de Boaké où Traoré Daoud enseigne uniquement la langue arabe.
Bon, vraiment, on a fait des réunions avec les guides. Vraiment, on nous a expliqué comment il faut pour être intégré. Voilà. Bon, les classes même doivent être bien construites, plafonnées, tout ça. On parlait de ça. Bon, dans chez nous aussi, vous-même, vous voyez, voilà, on est encore loin d'être intégré.
Héritage colonial, les écoles catholiques dès 1960 ont été intégrées par le président Félix Houphouët-Boigny au système d'enseignement public. Et il y a encore du chemin pour parfaire l'intégration des écoles islamiques dans le système officiel de l'éducation nationale. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
La 5e vague de la pandémie de coronavirus continue de se propager dans le monde, infectant aussi bien les non-vaccinés que les vaccinés. Le nouveau variant Omicron a entraîné des milliers d'annulations de vols ici aux États-Unis. Le président américain Joe Biden a promis la mise à disponibilité d'un demi-milliard de tests rapides alors que les élèves américains retournent à l'école. Arash Arabassadi s'est penché sur le sujet. Dilidico reprend ici son reportage.
Plus de 9200 vols intérieurs et internationaux ont été retardés ou annulés le jour du Nouvel An ici aux États-Unis en raison du mauvais temps et de l'augmentation des cas liés au variant Omicron selon le site flightaware.com. Dimanche, 2200 autres vols ont subi le même sort. L'aéroport de Chicago était bondé. Écoutons Sylvia Robinson, une voyageuse venue de Houston, au Texas.
L'année dernière, j'ai voyagé et il n'y avait personne ici. C'était un peu étrange. Du coup, j'aime bien voir des gens, mais là, il y en a trop.
Alors que le variant Omicron semble moins susceptible de provoquer une maladie grave, le principal conseiller médical du président Joe Biden, le docteur Anthony Fauci, prévient que l'augmentation des infections menace l'ensemble du système de santé.
Even if you have a less of a percentage of severity,
même si vous avez un pourcentage de gravité inférieur de la maladie, lorsque vous avez plusieurs personnes infectées, le résultat est que vous allez avoir beaucoup de cas nécessitant une hospitalisation. C'est la raison pour laquelle nous craignons de mettre à rude épreuve le système hospitalier.
Alors que les écoliers américains retournent en classe cette semaine, le message du docteur Fauci reste clair.
I plead with parents to please seriously consider.
Je prie les parents d'envisager sérieusement de vacciner leurs enfants, de leur faire porter des masques en milieu scolaire, de faire des tests pour contenir la propagation du virus lorsque les enfants sont infectés. Je pense qu'ensemble, toutes ces mesures permettront de ramener les enfants à l'école.
Le nouveau maire de New York, Eric Adams, qui a prêté serment samedi, a assuré que la plus grande ville du pays est prête pour une reprise des classes.
Nous allons créer un environnement sûr avec des tests. Nous allons identifier les enfants qui sont exposés. Nous allons les retirer de cet environnement. Les chiffres montrent que le simple fait qu'un enfant soit exposé dans une salle de classe ne signifie pas que toute la classe est exposée.
Adams prend ses fonctions alors que la ville de New York fait face à un nombre record de cas liés au variant Omicron.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Poursuite du reportage de notre envoyé spécial au Salon de l'électronique de Las Vegas au Nevada. Arzuma Compaoré fait le point de la deuxième journée, celle de mardi.
Et c'est parti pour l'événement médiatique officiel du Salon de l'électronique de Las Vegas, CES Unveiled. Plus de 130 exposants choisis sur mesure présentent des technologies révolutionnaires en exclusivité pour les médias. C'est également l'occasion pour les lauréats des CES Innovation Awards de présenter leurs produits. Alors si vous êtes prêts pour un petit tour, c'est parti. Là, nous avons derrière nous une machine à laver portable et c'est une invention de Dan Technology. Nous sommes avec son CEO qui s'appelle Damien Pi. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors en quelques mots, dites-nous, cette technologie que nous avons ici, ça sert à quoi ?
Alors c'est un petit lave-vaisselle qui se pose à côté de l'évier sur l'égouttoir qui ne nécessite pas d'arrivée d'eau puisqu'on le pose, on le relie au réseau électrique, on le remplit par l'avant comme une machine à café avec un gallon d'eau et ça se vidange directement dans l'évier. On lave en 20 minutes la vaisselle de deux personnes, c'est-à-dire 6 assiettes, 4 verres, 2 tasses de bol et les couverts. Donc voilà, pour une ou deux personnes, c'est vraiment la vaisselle qu'on va utiliser sur une journée. Et ça se vidange directement dans l'évier, propre et sec, en 20 minutes.
Pour Dan Technology, un événement comme le CES, ça représente quoi ?
Ben nous, le CES, c'est avant tout une opportunité de nous faire connaître, puisque nous, on est présents en Europe aujourd'hui, où on a vendu sur l'année dernière 35 000 bob. Donc c'est un beau succès pour une première année de commercialisation. On est également présents à Taïwan, et on sera présents cette année au Japon, en Corée, Hong Kong, à Singapour, et en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Et c'est pour ça qu'on est venu là aujourd'hui, ben pour nous faire connaître sur le marché américain, puisqu'aujourd'hui, le bob est en précommande sur notre site à 299 $ au lieu de 399 $, qui est le prix de vente retail conseillé.
Est-ce que vous êtes surpris de voir un peu comment les gens utilisent votre invention finalement ?
Oui, bah alors en fait, nous, il y a plein de choses. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'achètent pour laver les tasses au bureau, pour éviter d'utiliser des gobelets jetables. Il y a beaucoup de gens qui font des camping-cars, des vannes aménagées et qui du coup configurent leur espace. Donc, par exemple, ils vont mettre les panneaux solaires, le système des batteries, un onduleur. Et ils intègrent le bob pour pas avoir à faire la vaisselle. On a beaucoup de personnes âgées qui achètent le bob. Pourquoi ? Parce qu'en fait, généralement, on est assez âgé, on est tout seul, on n'a plus les enfants avec soi et on commence à avoir un peu d'arthrose. Donc faire la vaisselle à la main, c'est difficile. Et bob, l'intérêt, c'est que c'est très facile à utiliser. On appuie sur le bouton et ça lave et il n'y a pas besoin de se baisser. Donc là, le prix d'entrée, c'est 399 $ en magasin et en ligne. Et aujourd'hui, il est en précommande à 299 $ avec une réduction de 100 $ pour les 6 mois d'attente liés à la précommande.
Merci beaucoup Damien Pi, et puis on vous souhaite bonne continuation et merci. Beaucoup de courage.
Merci beaucoup et surtout jetez l'éponge, adoptez Bob.
À très bientôt, vous avez compris, jetez l'éponge.
Eh bien, c'était sur place à Las Vegas, au Salon de l'électronique, Arzuma Compaoré.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.